Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h08, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci infiniment de votre fidélité. Si vous avez manqué la première heure, on a parlé de Gaël Monfils évidemment et de son exploit cette nuit en battant Taylor Fritz en 4-7, qualifié donc le français pour les quarts de, pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Je m'avance un petit peu, on retrouvera Eric Salio dans quelques instants. Nous sommes toujours avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Marc Madio, Denis Charvet. Dans quelques instants, on vous parle de la liste de Fabien Galthié pour le tournoi Destination avec deux revenants, Oscar Jégou, Hugo Oradou. Malaise ou pas malaise? Ou pas malaise, c'est le bras de fer des GG. 10h30, Charlie Dalin pulvérise le record du Vendée Globe. C'était cette semaine, 64 jours pour faire le tour du monde. Ce record sauve-t-il cette édition 2024? Allez, tout de suite, direction Melbourne. On retrouve Eric Salio. Ça y est, on connaît l'identité de l'adversaire de Gaël Monfils pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, Eric.
Ouais, Ben Shelton qui a battu en 4-7 Lorenzo Musetti, 6-3, 3-6, 6-4, 7-6. Alors j'ai vérifié les 20e mondial Shelton, mais je vais vous donner un signe encourageant. L'an passé, il avait été battu au 3e tour par Adrian Manarino, donc il déteste les Français. Ah. Donc voilà, c'est ils se sont jamais joués, Gaël et Ben Shelton, mais c'est un garçon qui est...
Il a été battu par un Français, donc il déteste les Français.
Ah, il déteste, oui, c'est un traumatisme pour lui. Souvent en conférence de presse, c'est un vrai traumatisme.
Ouais, bah, justement, écoutez Gaël Monfils, alors c'était avant l'issue de cette rencontre entre Musetti et Ben Shelton, Gaël Monfils qui était au micro, qui a rencontré, qui a retrouvé après sa victoire, Eric Salio, écoutez cet échange, Gaël Monfils qui se prend pas la tête, peu importe qui ce sera pour lui, bah voilà. C'est un huitième de finale, c'est une deuxième semaine de Grand Chelem.
Non, mais en vrai, Eric, c'est match par match, quoi. Tu vois, tu bats le 4, là, t'arrives, je crois que je joue Shelton ou Musetti, donc bon, encore une fois, tu pars pas favori. Essaie de bien récupérer, essaie de garder ses sensations, essaie de bien travailler dessus. En vrai, tu vois, Musetti m'a mis des branlés, tu vois, donc compliqué. Et Shelton, il joue incroyable, quoi. Il est quoi, les 14e mondial. Donc en vrai, tu vois, je vais kiffer et je vais penser au match plus tard, quoi.
Et voilà, il va kiffer, on s'en fout de son adversaire, même si ce sera Ben Shelton, qui n'est pas 14e mondial, mais donc 20e mondial. C'était aussi Jean-Michel à peu près, mon fils. Merci Eric.
En tout cas, Gaël, là, il est sur le coup, hein. Il est au soutien de Elina Svitolina sur la Margaret
contre Paolini. Ça fait combien, oui, d'ailleurs?
6-2 Paolini et 4-2 Svitolina.
Et Sinner est également sur le court, il a remporté le premier, oui, set.
Ouais, 6-3, 3-2 pour Yannick Sinner contre l'Américain. Je sais pas si c'est Riron, on dit. Marcos Riron, allez.
Très beau, oui, vas-y.
On dit comme ça.
Allez, personne t'en tiendra rigueur. Merci beaucoup, Eric Salio. À 11h30.
Pas bon fils, Riron.
À 11h30, on se retrouvera un petit peu plus tard, parce qu'on parlera de ces supporters français qui mettent le feu en tribune. Est-ce que c'est l'avenir du tennis? On se posera cette question et je sais que vous n'êtes pas d'accord. Mais GG. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Valérie Giscard d'Estaing qui a dit un jour, il n'y aurait pas tant de malaise s'il n'y avait pas autant d'amateurs de malaise.
RMC. Le bras de fer GG.
Oscar Jégou et Hugo Oradou sont dans l'avion. Ils sont en train de rentrer en France 2 mois quasiment après avoir été inculpés pour viol en Argentine.
On a attendu que la justice fasse son cheminement. On a été très clair, ils ne rejoueront pas en équipe de France tant qu'il n'y a pas de non-lieu.
Après 5 mois de procédure, Oscar Jégou et Hugo Oradou sont enfin reconnus innocents.
Alors où je vous parle, c'est un non-lieu qui les concerne, pas autre chose. Ils sont candidats à l'équipe de France.
Le sélectionneur Fabien Galthié l'a précisé, Hugo Oradou et Oscar Jégou sont innocents. Il les a donc convoqués pour le premier rassemblement avant le tournoi Destination.
6 mois après l'affaire de Mendoza, revoilà Oscar Jégou et Hugo Oradou avec le 15 de France. Les deux joueurs ont été convoqués cette semaine par Fabien Galthié pour préparer le tournoi Destination. Un retour soigneusement préparé après le non-lieu prononcé par la justice argentine le 10 décembre dernier. La plaignante qui accuse les deux joueurs Jégou et Oradou de viol aggravé a fait appel. Il sera examiné le 10 février prochain en plein tournoi. Son avocate parle d'un retour précipité en équipe de France. Voici ce qu'elle dit. Ils peuvent encore aller en prison puisque l'affaire est loin d'être finie. Fin de citation. Leur convocation avec le 15 de France. Est-ce qu'il y a malaise ou pas malaise? Dans le coin gauche, la team, il y a malaise. Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski. Dans le coin droit, la team, il n'y a pas malaise. Marc Madio, Denis Charvet, c'est extrêmement serré. On vous a posé cette question sur le compte X des grandes gueules du sport. C'est du 55%, 45%. 55%. Il y a malaise. C'est vous, les copains du pas malaise, qui allez débuter dans quelques instants. Mais on va retrouver avant notre journaliste RMC Sport correspondant à La Rochelle, Romain Asselin. Salut Romain.
Salut les grandes gueules.
Romain qui est avec nous dans le studio RMC, il est en transit hein, parce qu'il va ensuite partir à Trévise pour la rencontre Trévise-La Rochelle en Champions Cup. Romain, depuis le 10 décembre, je le disais en tout cas pour la FFR, la Fédération Française de Rugby, le sujet est clos.
Oui, depuis l'abandon des charges qui pesaient en Argentine contre les deux hommes de 21 ans, réaction de la Fédé dans la foulée, la justice les réhabilite, plus rien ne s'oppose dès lors à leur retour en sélection, je cite, si leur performance sportive le permet. Aucun blâme disciplinaire en interne donc pour s'être retrouvé dans cette situation et c'est ce qui fait tout c'est le camp de la morale et de l'éthique dans cette histoire qui regrette quelque part l'absence d'une sanction pour l'exemple à l'heure où le rugby est noirci quasiment chaque mois par des scandales avérés de violence, de cocaïne, de racisme aussi avec l'affaire Jaminet qui lui a été suspendu 34 semaines. L'opinion publique est divisée, la Fédé elle garde le cap face à la tempête. Le sélectionneur aussi, Fabien Galthié, était l'invité du Super Moscato Show cette semaine, deux jours avant l'annonce de la liste des 42 joueurs retenus pour préparer le Six Nations.
À partir du moment où nous, depuis le début, nous faisons confiance à la justice argentine, nous voulons aider la justice à juger de la meilleure des manières ces deux joueurs dans cette affaire. À partir du moment où, après une procédure, il y a un non-lieu qui est rendu, après une procédure cohérente, ils sont sélectionnables.
Malgré l'appel.
Une fois de plus, on fait confiance à la justice argentine. Il y a la possibilité pour les avocats des parties adverses de faire des appels, comme en France. Voilà. Aujourd'hui, il y a un non-lieu qui est évident et qui est clair. On considère qu'ils sont innocents.
Et ils brillent dans leurs clubs respectifs, à La Rochelle pour Jégou, à Pau pour Oradou, qui eux les ont relancés bien avant le non-lieu, plus de 20 matchs disputés en cumulé pour les deux. Autant c'est plutôt silence radio à la section, autant il n'y a plus vraiment de malaise pour parler d'Oscar Jégou. Clairement, le meilleur Rochelais du moment sur le terrain est bien placé pour fêter à minima une deuxième sélection pendant le tournoi. Le pilier international Georges-Henri Colombe s'attendait justement à le revoir en bleu.
J'étais avec lui en Argentine, donc je savais qu'il allait revenir aussi fort. Quand t'as la tête sur les épaules, je pense que tu réagis et que malgré les situations que tu peux en jurer, tu rebondis et tu rebondis fort. Donc je sens bien dans sa tête, dans ses baskets et dans son rugby.
Et il sera titulaire encore cet après-midi avec La Rochelle en Coupe des Champions avant de rallier Marcoussi en toute légitimité selon son manager Ronan O'Gara.
Il n'y a pas de petite histoire, peut-être, non, c'est fini, discussion terminée, mais moi je suis son coach, je suis très fier de lui, mais c'est pas facile, parce que peut-être dans 6 mois, il va réfléchir et être dans un état déprimé. C'est pas des robots, c'est des jeunes joueurs avec des émotions qui sont fragiles.
Et d'autant qu'ils affrontent cette nouvelle zone de turbulence en dehors des terrains que Rémi espère vite évacuer. Rémi, un ami d'Oscar Jégou rencontré cette semaine.
Il y a quelques temps, il était au fond du seau avec ce qui lui est arrivé. Il revient de loin, il revient fort. T'as envie de le prendre comme exemple. On est heureux pour lui, quoi. On veut que quand on entend le nom d'Oscar Jégou, ça soit pour ses performances et non l'extra sportif qu'on veut tous oublier, je pense.
Mais vu la polémique, cela risque de prendre du temps quand même.
Exactement. Merci beaucoup, Romain Asselin. Tu restes avec nous pour ce débat. Toi qui connais bien ces deux joueurs, notamment le Rochelet, tu le vois tout au long de la saison. Et c'est vrai qu'ils cartonnent sportivement. Alors, leur convocation, il y a malaise, il n'y a pas malaise. Vous le savez, vous êtes très partagé sur le compte X des grandes gueules du sport. Vous aussi, là, dans le studio RMC, c'est dire si s'il y a débat, c'est du 2-2. Il n'y a pas malaise. Denis Charvet, c'est toi qui commence. Pourquoi ?
Écoute, je pense qu'il est temps et urgent de les réhabiliter aujourd'hui, qu'il est nécessaire de les réhabiliter. D'abord, les réhabiliter, c'est être cohérent avec ce qui se passe, ce qui s'est passé. D'abord, ils étaient innocentés. Je sais très bien que Christophe, il va avancer l'argument qu'il y a appel. Sauf qu'on n'est pas dans une procédure d'appel. Puisqu'on attend que justement l'appel soit retenu. Donc c'est pas la même chose. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de preuve.
Ils ont été innocentés.
Innocentés, surtout, il n'y a jamais eu de preuve. Donc je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas confiance à la justice argentine. Parce que c'est tout le débat est là, en fait.
Non, le débat ne va pas là-dessus.
Bon, d'accord.
Non, c'est là où
sur
tu
l'image.
Donc, c'est là où tu
vas. Toi, tu vas sur l'image, oui.
Mais bien sûr. Oui. Mais le débat, personne ici va refaire le procès et on n'est pas là pour ça.
Mais si, parce que le
débat,
l'image,
le débat, j'y vais tout de suite et oui, je pense que les copains ont cet argument. Oui. Non, mais je te réponds. Et tu me dis, le débat, c'est de dire que Melvin Jaminet, il n'a pas été sanctionné par la justice, hein. Il a tenu des propos racistes. Il aurait pu. Il n'a pas été.
Mais là, c'est pas
il aurait pu. Il a pris 34 semaines de suspension par la fédération. Pourquoi deux joueurs qui ont peut-être aussi,
mais qui ont peut-être
un peu abusé du maillot de l'équipe de France,
tu peux pas dire le peut-être.
Mais tu veux pas dire le peut-être.
Aujourd'hui, le jugement montre que ça a été consenti, c'est-à-dire qu'il y a pas,
c'est ce que
y a
je
pas
te
eu...
dis, oui.
Oui, mais donc il y a eu quand même, il y a eu quand même un comportement qui était en dehors du cadre d'une sélection en sélection.
Non, le seul comportement, c'est qu'ils n'auraient pas dû faire venir une fille à l'hôtel.
Mais, voilà.
Rentrer à 6 heures du matin.
Je sais. Non, mais il y a Mordome pour toi. Non, mais c'est ça le problème. On va les condamner à vie parce que justement.
Mais il y a pas Mordome pour une petite vidéo et tu prends 34 semaines. C'est il y a un peu de poids,
non, c'est pas de poids de mesure.
Non, tu peux pas dire que la vidéo de Jaminé, c'est une petite vidéo quand même. Non, mais c'est une vidéo, mais et je pense qu'il a fait moins de mal à la personne qu'il a
insulté. Oui, mais c'est pas le débat. Si on parle de Jaminé, moi je te dis que la sanction elle est énorme. Elle aurait jamais dû être comme ça. Donc c'est pas pour le défendre, mais je trouve ça c'est disproportionné. Totalement. Donc,
mais c'est disproportionné à partir du moment, et j'arrive Marc, à partir du moment où tu portes atteinte au maillot de l'équipe de France. Moi, est-ce que ça mérite pas une sanction? C'est ça notre question.
Mais là, tout le débat, c'est est-ce qu'on porte atteinte ou pas? Moi je te dis que non.
On a le droit de s'exprimer. Il y a que Charvet qui parle. Attends.
Il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. On est dans un état de droit.
Exactement.
Depuis des siècles, on s'est battu pour que le droit soit respecté. On est confronté en permanence à des situations où le droit n'est pas respecté.
Mais on respecte le droit, ils jouent avec leur club.
Ils jouent avec leur club.
Ils sont innocents pour la justice, ils sont innocents. Ou alors je me trompe.
Mais bien sûr.
Bon, ils sont innocents. On est tous d'accord avec ça.
Pour
la justice, c'est la justice qui compte.
Vous,
c'est pas nos petits avis personnels qui doivent décider du sort de ces deux joueurs.
Pour
c'est
vous,
la justice.
Leur comportement est exceptionnel, justice, digne d'un joueur de l'équipe de France. Toi, t'as un mec qui vient en stage avec toi, un garçon de l'équipe de la Groupama FDJ, qui se bourre la gueule, qui rentre avec trois
nanas. Mais je vais le sanctionner éventuellement en interne.
Qu'est-ce qui va se passer?
Et
tu penses que Vauclair le prendra en équipe de France? Mais remettez les choses dans leur contexte, je pense que
Vauclair le prend en équipe de France. S'il est innocenté, la justice a été rendue.
Ils ont été sanctionnés puis qu'ils n'ont pas fait les tests d'automne, donc ils ont déjà été sanctionnés. Tu veux les sanctionner jusqu'à
sélectionnés parce que l'affaire n'était pas jugée. C'est pas la même chose. C'est pas une sanction. Mais non, c'était pas.
Alors moi je pense que
dans la vraie vie ils sont innocents aujourd'hui. Dans la vraie vie ils sont innocents.
C'est très intéressant. On va juste écouter parler. Je vais distribuer la parole et vous allez pouvoir avancer vos arguments. Christophe, tu peux terminer sur et ensuite j'irai voir Sarah et vous allez pouvoir répondre.
Très mauvais message envoyé aux jeunes en général, aux jeunes rugbymen en particulier. C'est un peu dans le genre, ne vous inquiétez pas, si vous faites de grosses ou de moins grosses conneries, la fédération sera toujours derrière vous et on vous oubliera nous aussi on a été jeunes, nous aussi on a fait des conneries, et nous aussi, alors donc on va surtout pas vous jeter la pierre. Le seul truc qu'on vous demande, c'est surtout que vos conneries restent cachées. N'allez pas comme Jaminet enregistrer les messages vidéo, parce que là, on pourra rien faire pour vous. Mais vous bourrez la gueule, faire n'importe quoi avec l'alcool, les nanas, la coke, ça y a pas de souci du moment. Qu'on ne le voit pas, c'est pas grave. Alors qu'on se comprenne bien, je veux pas condamner ces garçons à vie, mais je trouve que moins d'un an après ce qui s'est passé, les voir en équipe de France et les voir reporter ce maillot, je suis désolé, mais pour porter ce maillot de l'équipe de France, il faut être exemplaire. Et même si tu as été blanchi par la justice, je trouve que leur comportement là-bas n'a pas été d'une exemplarité totale. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Si vous pensez qu'ils ont été exemplaires, qu'ils méritent de porter le maillot national,
c'est pas ça. J'ai dit, on défend pas l'exemplarité,
Denis.
Parce que sinon il y aurait pas débat. Mais justement, moi je me fie à une justice, et comme le dit très justement Marc, il y a le droit.
Derrière la justice.
S'il y a pas de droit,
sur le plan sportif, vous avez raison, il y a pas de malaise. Sur le plan sportif, il n'y a pas de malaise. Ils ont été réintroduits dans leur club, ils ont joué. S'ils sont sélectionnés, c'est qu'ils sont au niveau. Mais si on se place sur le plan de la morale, oui, il peut y avoir la morale.
Ce qui est bien, c'est qu'ils vont, c'est d'un côté rédemptoire.
Le temps doit faire son œuvre.
Il avait déjà été alerté, Jégou, avant cette histoire, et il avait dit, oui, vous inquiétez pas, j'ai compris, j'ai très bien compris. Il t'en avait parlé, Romain. J'ai compris, la coke, c'est vraiment pas bien, je ferai plus jamais de bêtises comme ça.
Mais si...
3 mois plus tard, tu le retrouves, pas pour les mêmes raisons.
S'il n'y avait même pas de malaise moralement, pourquoi la fédération aurait mis en place un nouveau règlement? Si finalement ce qui est arrivé, c'est un acte isolé. Ça a remis en cause tout le fonctionnement de l'équipe de France.
Mais c'est bien sûr, parce qu'une semaine après en Argentine, il y avait des consignes, mais les joueurs sont quand même sortis.
Donc ça prouve bien que effectivement leur comportement, que ça ne soit pas une faute ou un délit, qu'il n'ait pas été sanctionné. Ok, c'est une chose. Mais moralement, ils sont allés au-delà du cadre du maillot de l'équipe de France. Donc oui, aujourd'hui, ils ne sont pas sanctionnés. Ils ont été sanctionnés parce que, effectivement, le procès n'était pas encore. Il n'y avait pas eu de verdict, donc on ne pouvait pas les sélectionner.
Mais il y a eu la sanction
de la fédération.
Moi, le camp du malaise, on vous a compris. Maintenant, il n'y a pas malaise.
Je vais plus loin à la limite. Les vrais responsables, ce sont ceux qui sont au-dessus, puisque c'est culturel dans le rugby. On sait très bien qu'à 2000 ans, le troisième.
Ils sont majeurs et vaccinés quand même.
Moi, j'ai fait 15 tournées. C'est extrêmement difficile d'encadrer des jeunes, surtout quand ils partent à l'autre bout du monde, et que tu es dans un pays qui est en plus un pays qui est extraordinaire pour la fête, qui est l'Argentine. Comment tu veux les tenir? Après, je pense qu'il y a, aussi une responsabilité au-dessus.
Ah, mais ça, personne n'a dit le contraire.
Oui, mais faut pas non plus mettre tout sur le dos des joueurs. Les joueurs, ils ont payé quand ils sont revenus en France, ils n'ont pas joué avec leur club, alors qu'ils étaient employés de leur club. On a attendu que.
Ils ont vite été réintégrés.
Non. Ils ont été intégrés par Radu. Jégo a été intégré quand il y a eu le non-lieu.
Au Radu a été le premier à jouer, très rapidement intégré à l'équipe paloise, ils ont attendu un petit peu, mais tout ce que ça a changé derrière,
on ne peut pas l'occulter. Tout ce que ça a fait comme bouleversement.
Il y a un nouveau cadre, c'est normal qu'on tire des enseignements de la situation.
On tire des enseignements d'une exemplarité.
Il y a plusieurs volets dans cette histoire. Encore une fois, on est dans un état de droit en Argentine et on est dans un état de droit en France et c'est très bien. Donc à partir du moment où on est dans un état de droit, on se doit de respecter la loi et de respecter les décisions de justice. Après, on peut aller sur le plan moral, sur le plan éthique, suivant les sensations ou suivant les perceptions qu'on a de la situation. Mais il n'empêche que juridiquement aujourd'hui, ils sont dans leur droit.
Après, la morale, on n'est pas d'accord.
C'est chacun qui a sa propre perception de la situation. Je ne dis pas que moralement c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Il y a sans doute eu des conclusions à tirer de cette situation. Et quand le président de la Fédération de rugby est venu nous rendre visite ici même dans cette émission, Il en a tenu compte. Donc c'est normal qu'il y ait des décisions de prise et des mesures de prise en conséquence de ce qu'il y a eu en Argentine. Mais il n'empêche que, in fine, c'est le droit qui prime et on doit respecter le droit, que ça nous convienne ou que ça nous convienne pas, qu'on ait des appréhensions par rapport à ce qui s'est passé, je suis d'accord, mais le droit est le droit.
Et puis la fédération a suivi le droit.
Alors la fédération est surtout très contente de ce qu'elle a fait. Elle trouve que la communication a été gérée de manière parfaite, que finalement elle n'a pas pris trop de coups de bâton à la suite de cette histoire, et elle se dit Tout s'est passé, donc on continue à faire ce qui s'est passé.
Oui, mais regarde, parce que Christophe a raison. L'équipe du 16 janvier, sous la plume de Maxime Rollin, voici ce qu'il écrit. En dernier ressort, le président Florian Grill a donné son aval concernant la convocation des deux joueurs. Du côté de l'instance générale, on estime qu'après la décision de non-lieu, il est temps de tourner la page, d'autant plus que la FFR se félicite en interne de n'avoir jamais reçu de commentaires négatifs sur la gestion de l'affaire. Aucun partenaire n'a souhaité se désengager.
Voilà. Si effectivement deux sponsors étaient partis, là peut-être que oulala, il faut pas les reprendre. Mais là, comme c'est passé crème, on continue.
Marc, tu parlais de la morale. Je vous relance là-dessus. D'ailleurs, Denis, si on parle pas forcément que de morale, on parle du maillot de l'équipe de France. C'est-à-dire que je pense que Christophe et Sarah étaient tout à fait d'accord pour dire ils sont salariés, ils ont le droit de jouer, ils peuvent jouer avec leur club. Le maillot de l'équipe de France, c'est autre chose. Quand tu dis ils n'ont pas été inquiétés par la justice, donc il n'y a pas besoin de les inquiéter au niveau du maillot de l'équipe de France. Je termine juste sur cet exemple. Tout évidemment, petit exemple, mais qui marque bien le coup tout de même. Il y a quelques semaines, Kylian Mbappé part en Suède. Vous vous souvenez, la virée, tout ça, voilà. Le prochain rassemblement, qu'est-ce qui se passe? Didier Deschamps ne le prend pas. Alors, il n'a jamais dit que c'était parce qu'il l'avait mis un petit peu dans la mouise, parce qu'il ne devait pas jouer avec le Real, il était blessé, finalement, il jouait avec le Real, et on le voit après en Suède, pendant le rassemblement, tout ça. Donc, il l'a sanctionné. Il n'a pas été inquiété par la justice, Kylian Mbappé. Pourtant, avec le maillot de l'équipe de France, il l'a sanctionné.
Il n'a pas été inquiété par la justice, parce que la justice ne s'est pas prononcée contre Mbappé. Et l'affaire est close.
L'affaire est close, sauf qu'au niveau de l'instance, à un moment donné, Didier Deschamps, même s'il ne l'a jamais reconnu, il a dit « Attends, je ne te prends pas, là ».
Mais quand l'affaire en Argentine tombe, les deux joueurs, ils sont sanctionnés puisqu'ils sont plus en équipe de France.
Non, ils sont sanctionnés par la justice.
Ils ne sont plus en équipe de France, c'est pas vrai. Encore heureux,
ils sont mis en examen.
Et donc c'est paradoxal ce que tu dis, puisque quand ça tombe, on dit qu'ils sont plus sélectionnables.
Excuse-moi, donc après, ils ont dit on attend de voir la justice, ils sont sélectionnables.
Les camps du malaise. Sarah, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, toi qui es en communication? Est-ce qu'à un moment donné, il aurait fallu dire pendant 3 mois, pendant 4 mois, pendant 5 mois, vous êtes suspendu par la fédération?
Et tu aurais reposé la question de la même façon dans 3 mois ou dans 4 mois?
Même pour les joueurs eux-mêmes, en reportant le maillot de l'équipe de France ou en étant sélectionné si tôt, finalement, après ce jugement, après ce qui s'est passé, c'est que leurs deux noms seront systématiquement, même s'ils ont été blanchis, seront systématiquement associés à ce fait qui s'est déroulé en Argentine. Il y a un délai de carence, le droit à l'oubli, pour faire redescendre les choses.
Donc combien de temps tu aurais donné, mais
l'équipe de France,
tu les renvoies en tournée au mois de septembre. Tu leur mets 3 gardes sur le tour, mais tu les envoies en tournée en Nouvelle-Zélande.
Déjà, est-ce qu'il faut les sélectionner pour une compétition officielle? Est-ce que peut-être que effectivement des tournées, d'automne.
On tourne autour du pot là.
On tourne pas autour du pot. Aujourd'hui, tu vas au bord des terrains de rugby, les parents, les enfants, ils parlent de ces joueurs-là.
L'image du rugby n'a pas été entamée parce que les audiences n'ont jamais été aussi fortes.
Mais c'est autre chose. Il faut pas tout mélanger.
Je mélange pas. C'est important de le dire.
T'es devenu le dircom de la Fédération française de rugby.
Il est venu à un score incroyable pendant la tournée d'automne. Excuse-moi. Voilà.
Ok, les copains.
Si tu voulais faire du bien au rugby,
tu les laissais oublier pendant quelques mois supplémentaires.
Ton avis, c'est pas le mien.
Eh ben, écoute,
on a bien compris.
Mais j'ai bien compris. Vous faites des bras d'honneur à tous les
arbitres.
Ok. On respecte
les décisions de justice.
C'est bon, les amis. Parfait. On a bien compris vos position sur ce débat. Sachez que le camp du oui s'est imposé à 56%. 56%, 44%, vous avez gagné quelques pourcentages. Il y avait donc bien un malaise pour vous et pour vous aussi, chers auditeurs. Merci beaucoup, Romain Asselin, d'avoir été avec nous. On te retrouve un petit peu plus tard sur RMC. Bon vol en Italie. Trévise, La Rochelle, 18h30 pour la Coupe des champions de rugby. On se retrouve dans quelques instants. La punchline des GG, le record incroyable de Charlie Dalin sur le Vendée Globe. Est-ce que ça sauve cette édition? À tout de suite sur AMC.
Avec le vélo tour de France, t'es tranquille, des mecs qui gagnent,
c'est marionnette
en mousse.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Visiblement, vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein. Tais-toi, flagelle la gueule à coup de cravate.
Jean-Christophe Drouet.
C'était un peu plus tôt dans cette émission, Sarah Pitkowski qui a voulu atteindre Marc Madiot sur le vélo. On parlait de Gaël Monfils et de son exploit magnifique cette nuit, qualifié pour les 8e de finale de l'Open d'Australie. On en a parlé à partir de 9h. Le débat, l'attaque de Sarah Pitkowski est déjà disponible en podcast. Vous pouvez tranquillement aller réécouter tout ça. Et Marc Madiot, il n'en prend pas ombrage, mais il se souvient. Et je vois sa tête, je sens qu'il va s'en souvenir longtemps de celle-ci, de cette attaque sur son vélo, son sport qui lui est si cher. Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Marc. Ce matin, merci d'être avec nous dans les grandes gueules du sport. Dans une dizaine de minutes, les GG contre-attaque. 4 très bons débats proposés ce matin. Christophe Cessieux est en train de s'imposer.
Votez Neymar, s'il
avec
vous plaît.
Les provinces sud-africaines, c'est un fiasco. Oui.
Je suis pas loin.
Aujourd'hui, ça y est, t'as choisi ton camp. T'es plus Neymar que rugby, quoi.
Oui.
Ouais, t'es vraiment qu'un footeux, quoi.
Je suis Neymar.
Il a raison, tout de même. Allez, on parle d'autre chose. En tout cas, vous pouvez aller voter sur le compte X des grandes gueules du sport. 64 jours, 19h, 22 minutes, 49 secondes. Voici le nouveau temps de référence. Charlie Dalin a remporté cette semaine la 10e édition du Vendée Globe 2024 en pulvérisant le record d'Armel Lecléache. C'était en 2017. Il l'a pulvérisé de 10 jours. Une performance invraisemblable pour un tour du monde en solitaire. Disputé donc à vitesse grand V. Charlie Dalin, c'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Même si on peut être plusieurs à battre le temps de référence, il n'y en a qu'un qui bat le record, c'est le vainqueur. Donc voilà, c'est un peu la prime, le bonus pour le vainqueur, parce qu'au final il n'y en a qu'un qui prend le record. Et je savais que les bateaux étaient capables de tourner en moins de 70 jours. Ça, j'en étais convaincu. Après, de là à descendre à 64, ça, j'aurais pas forcément misé dessus.
Et voilà, Charlie Dalin qui remporte son premier Vendée Globe. Ce record sauve-t-il ce Vendée Globe 2024? C'est notre question, oui ou non? Christophe Cessieux.
Pas besoin d'être sauvé.
Marc Madiot.
Pas besoin d'être sauvé.
Denis Charvet.
Pas besoin d'être sauvé, c'est exactement ce que je voulais dire. Non, mais je vous assure, je dis pourquoi le sauver le.
Oh, les flancs Mireille.
Ah, ben oui.
C'est la oui ou question.
Non, mais prépare un autre débat.
Ah, sauf que je vous ai posé la question il y a 24 heures et vous me répondiez pas du tout ça.
Si, mais moi j'ai dit oui.
Alors, tu veux que je te lise ce que je t'ai répondu?
Bah, oui, moi. Bah oui, bah ce record sauve-t-il le Vendée Globe? Pas besoin d'être sauvé, oui, ça veut dire non. Donc là, ouais, si tu me réponds oui, c'est pas la même chose.
Bah moi, je n'ose plus rien dire. Mais
ce record, t'as dit non?
Bah je crois que j'ai dit non parce qu'il n'a pas besoin d'être sauvé.
Ok, bah voilà, merci voilà. Sarah. Bah, merci oui, de répondre à la question.
Que tu fasses alors, 64, 70 ou 72 jours, il n'a pas besoin d'être sauvé ce Vendée Globe.
Ah bon? Exactement.
Parce mais parce que le Vendée Globe, c'est la plus grande course voilà, incroyable qui puisse exister au monde.
Je mettrais quand même un bémol.
Ah merci Marc.
Par rapport au.
Moi aussi, je mets des bémols.
Ah. Moi, je me suis posé une question par rapport à cette épreuve qui me fout le frisson dès le départ. C'est un truc hors norme. Et puis, je vous raconterai une petite anecdote. J'ai eu la chance de rencontrer un jour des joyaux et un autre jour Vincent.
Il a gagné deux fois.
Ouais, c'est des types extraordinaires. Extraordinaire. Il y a des gens qu'on rencontre dans la vie et
Michel
Joyau pour moi, il est dans mon top 5.
Il a été notre consultant, on s'est régalé avec lui pendant 3 mois.
Mais pour revenir au Vendée Globe, ce qui manque au Vendée Globe, c'est pourquoi n'y a-t-il pas plus d'étrangers à venir faire le Vendée Globe? C'est mon seul point d'interrogation.
Il y avait un Japonais.
Ouais, mais il y en a plus. Il y a des Néo-Z. Et notamment, les Anglo-Saxons ne viennent pas. Il n'y a pas d'Américains, il n'y a pas d'Australiens, il n'y a pas d'Anglais qui viennent faire le Vendée Globe.
Il y a beaucoup
de c'est ce qui manque à cette épreuve. Et je pense qu'elle a besoin d'être
internationalisée.
Ouais, elle est mondialisée parce que c'est un tel truc, c'est un tel événement. C'est une histoire, non, mais c'est fantastique.
Vous êtes régalé sur cette édition 2020.
Là où tu as raison, j'y sais, c'est que médiatiquement, on peut pas trop se régaler parce que c'est assez loin quand même. Moi, je suis la visibilité quand même, il faut aller chercher.
Faut qu'il se régale, faut qu'il y ait l'odeur du sang. Faut qu'il y ait des sauvetages, faut qu'il y ait des détresses, faut qu'il y ait des bateaux qui coulent. Autrement, c'est comme ça le truc.
J'y sais, nous on a reçu Charlie Dalin hier au Moscato Show, on a reçu Charlie Dalin. C'est un mec, tu parles de des joyaux, mais ouais, c'est les derniers aventuriers.
Mais pour moi, personne ne remet ça en cause.
Oui, c'est une émotion de croiser ce genre de personnages.
Ça, je suis d'accord.
Parce que tu te dis, ces mecs-là, ils font le tour du monde, ils jouent leur vie. Enfin, je sais pas moi. Pour moi, c'est tellement surréaliste.
Les copains.
Comprenez
le débat. Ce sont des héros. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, demain, on recevra Johan Richomme qui a terminé deuxième. Il sera notre invité dans le studio RMC. Ce sont des héros, aucun problème. Et tous les participants, aucun problème. Mais ce Vendée Globe 2024, j'ai pas souvenir qu'on ait parlé aussi peu d'un Vendée Globe. On a parlé du départ, on a parlé de l'arrivée.
Parce qu'il n'y a pas eu de compétition, en fait.
Aujourd'hui, on consomme le sport avec des buzz, avec des catastrophes, avec du sang, comme tu dis. Et donc, aujourd'hui, ce Vendée Globe, eh bien, il s'est joué au sport, il s'est joué à la stratégie avec deux mecs météorologues fantastiques, c'est des architectes navals, tous les deux, c'est des scientifiques, c'est la pointe de la pointe. Et effectivement, parce que le sport, tu le consommes comme un feuilleton aujourd'hui. On parle pas des résultats de foot. Les résultats de foot, ça doit correspondre peut-être à quoi, 35-40%.
Et on te parle
alors des problèmes des présidents, et on te parle des droits télé, et on te parle de Mbappé, et on te parle des différents recrutements. Le tennis, c'est la même chose. On va en parler parce que c'est la catastrophe dans le tennis français et qu'on n'a pas de résultats. Et le rugby, on va t'en parler parce qu'il y a.
On a fait un exploit ce matin.
Oui, mais ça n'efface pas. C'est pas l'arbre qui cache la forêt quand même. Je suis objective.
Là où je vais dans ton sens, Sarah, c'est qui on reçois Charlie Dalin et je lui dis comment t'as gagné. Il m'explique sa stratégie parce qu'il est passé après le Cap Horn, c'est ça. Il a pris des courants, une tempête. Il te parle, il y a des 11 mètres de creux, on va à 100 à l'heure. Et il fait ça pendant, je sais plus, 10 heures, 20 heures. Mais tu te dis, mais ça, on l'a pas, en fait. Tu l'as quand il te le raconte. C'est ça qui est dommageable. C'est-à-dire, tu te dis, mais c'est fou ce qu'il te dit.
Oh, je suis pas sûr que ce soit dommageable parce que la course au large, aujourd'hui, oui, on en a des images. Oui, mais pendant des dizaines, des décennies, il n'y avait rien. T'avais juste une liaison audio à peine audible. Mais la magie, elle était là. Non, moi, je pense que, cette course a été fantastique, le mano à mano entre les deux hommes, franchement, jusqu'au Cap Horn, on savait pas qui allait gagner, ils étaient vraiment dans la bagarre, mais ça, évidemment, ça n'intéresse peut-être pas le grand public qui n'est pas averti des chances de la voile. Les gens, et Jean-Christophe est un peu le symbole de
mais
ça.
Mais je le reconnais.
Et il le reconnaît, il y a pas de souci, tu peux pas intéresser le monde entier. Il y en a un qui préfère les compétitions de golf et les compétitions de foot aux compétitions de voile. Moi, ça m'a intéressé parce que j'ai suivi la course, en plus, je faisais le virtual regatta, je suis complètement à la rue, mais c'est pas grave.
T'es parti des Sables d'Olonne quand même.
Oui.
J'ai passé le Cap Horn.
Je remonte au Brésil.
Il y a du vent.
Je pense qu'il ne restera pas dans les mémoires. Cette édition ne restera pas dans les mémoires parce que elle n'a pas. Il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a pas eu de grande histoire autour de ça. Les plus grandes histoires du Vendée, les éditions qu'on rappelle à chaque départ, c'est celui de 96, les naufrages de Dinelli et Bullimore, c'est celle de 2000, là c'est pas un sauvetage, mais Yves Parlier qui répare tout seul son bateau dans une baie en Nouvelle-Zélande et qui fait Géo trouve tout pour repartir à l'assaut. C'est évidemment Yann Eliès, victime d'une fracture du fémur, qui se retrouve tout seul, secouru par la marine australienne, c'est le sauvetage de par le CAM de Escoffier la dernière fois. Ça, ce sont les éditions marquantes. Mais ces éditions marquantes, elles effacent souvent le vainqueur. Tu te rappelles pas qui l'a remporté cette année-là? Parce que justement, t'es focus sur les grandes histoires. Et cette année, eh bien, on sera focus sur la bagarre entre Dalin et Richaume. Et effectivement, pour les gens qui ne s'intéressent à la voile que pour les sauvetages, eh ben, il faudra attendre 4 ans supplémentaires.
Marc Madiot et ensuite Sarah.
Moi, je suis pas un grand spécialiste de la voile. Je suis un marin d'eau douce. Mais le frisson du Vendée Globe tous les 4 ans. Le moment du départ, le moment où les bateaux s'en vont et prennent le large, le retour du vainqueur et de tous les participants, l'enthousiasme du public. Et puis aujourd'hui, maintenant, on a quand même des moyens modernes. Moi, tous les jours, matin, midi et soir, à chaque pointage, j'allais sur mon téléphone pour regarder sur l'application du Vendée Globe où étaient situés les bateaux.
Mais t'as fait l'effort, moi je l'ai pas fait, par exemple.
Parce que ça m'intéressait, que j'avais envie de vivre.
Oui, mais
vivre
c'est toi qui t'as cherché l'information. On t'a pas donné l'information.
Marc est la démonstration que le Vendée Globe, c'est un sport. C'est une démarche proactive.
Oui, c'est ça.
C'est une démarche proactive. C'est toi, fan, qui va aller.
Je suis pas fan au départ.
Non, mais je veux dire, il y a une démarche proactive de suivre ce type de sport. C'est-à-dire que tu vas aller regarder, tu vas suivre un audio, tu vas aller écouter le podcast, tu vas aller regarder la photo qui t'arrive. C'est pas comme les autres sports où on t'abreuve et on te fait du bourrage de crâne toute la journée avec des images et tout ce qui se passe autour. On consomme la course au large différemment. C'est vraiment une démarche de proactivité. On vient chercher. Et d'accord. Je vais juste répondre à Marc concernant cette course qui devrait être plus internationale. Elle a jamais été aussi internationale. Aujourd'hui, il y avait 11 nationalités qui représentent 4 continents, même si effectivement la course au large est quand même une spécificité française, parce que les plus grandes courses ont lieu en France et les meilleurs skippers et les meilleurs constructeurs de bateaux sont en France.
Il n'y a que des Français qui ont gagné.
Elle s'internationalise petit à petit, mais la consommation de ce sport, elle est différente des autres.
En tout cas, bravo Charlie Dalin qui était l'invité hier dans le Super Moscato Show. Vous pouvez aller réécouter tout ça en podcast. Et demain, le deuxième, Johan Richaume sera notre invité dans le studio RMC.
Johan Richaume, ils sont très potes les deux d'ailleurs.
Qui a également battu le record d'Armel Lecléache.
65 jours et 18
heures. Sébastien Simon. Et le Vendéen qui est arrivé troisième, il bat aussi le record.
Les records, si vous voulez en parler des records, ils ont été battus parce qu'ils n'ont pas rencontré les tempêtes homériques précédentes.
Et parce que les bateaux.
Mais tu bats un record, mais tu n'as pas les mêmes conditions que la Mazou et Hogan il y a 30 ans.
Donc
ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire ce record.
Ok, très bien. On en parlera demain avec notre invité, Johan Richaume. 10h46.
Par rapport à moi.
Merci. Il y a encore un animateur dans cette émission, il va pas durer très longtemps, mais il est encore là, les copains. Donc n'hésitez pas, quand je reprends la main, quand je vous fais des grands signes, c'est que je veux parler. 10h46, on se retrouve dans quelques instants, les GG contre-attaque. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h49 de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux ce matin, Marc Madiot, Sarah Pitkowski, Denis Charvet. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter en direct. Nous sommes là jusqu'à midi, mais également en podcast. Vous pouvez tranquillement aller réécouter tout ça. Cet après-midi, nous avons notamment parlé de cet exploit cette nuit, la qualification pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie. De Gaël Monfils, on retrouvera un petit peu plus tard Eric Salio en direct de Melbourne. Bon, à partir de 11h, on va vous parler de cette interview qui a fait beaucoup de bruit, celle de John Textor sur RMC. Croyez-vous à la révolte des présidents maintenant contre le PSG, contre le Qatar, contre cette suprématie? Est-ce que vous y croyez oui ou non? Vous n'êtes pas d'accord sur cette question. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les GG.
RMC. Les GG contre-attaque.
Quatre propositions de débat ce matin. Vous avez pu voter sur le compte X des grandes gueules du sport. On salue Sarah Pitkowski pour sa dernière place. 15% avec l'intelligence artificielle.
Bravo, est-ce que elle... Sarah. Bravo, Sarah.
En fait, je crois que je fais des débats trop intelligent.
Ouais,
je suis totalement d'accord avec toi. Ça reste les grandes gueules du sport.
Fais du Neymar, voilà. Fais du Mbappé. Normalement, ouais, t'es sûr de gagner. Ou alors, il faut vraiment être mauvais pour pas.
Pour une fois, il n'est pas dernier. Troisième place avec Flavio Briatore et Alpine. Bravo. Il faut le dégager. 25%. Ouais. Bravo, Marc Madiot.
Je gagnerai jamais.
D'ici
la fin de la saison, je vais gagner au moins une fois.
Neymar qui s'exprime dans la presse. Il parle de Mbappé. Il va certainement partir d'Arabie Saoudite. 27%. Deuxième place pour toi, Denis Charvet.
Très déçu. Combien j'ai fait avec Briatore?
25.
Ah, c'est pas mal.
Et 27 Neymar, c'est beau ça.
Ouais, c'est pas mal.
33%, la victoire pour Christophe Cessieux, les provinces sud-africaines, c'est un fiasco.
Ça y est, les bonnes humeurs.
On a 4 minutes, Christophe.
Alors, son réseau qui a réagi. Ouais,
ses copines. Alors je suis au contraint aujourd'hui de faire un mea culpa, car oui, en 2022, quand l'idée d'intégrer les provinces sud-africaines à ce qu'on appelait la Coupe d'Europe s'est matérialisée, j'étais ravi, j'avais hâte de voir nos clubs européens se frotter aux provinces du pays champion du monde. Je pensais que c'était un vrai plus de pouvoir se mesurer à ce qui se fait de mieux dans le monde du rugby. Et bien aujourd'hui, 3 ans plus tard, je déchante, et tout le rugby de club déchante parce que cette intégration est en train de tourner au fiasco. Non seulement c'est un véritable casse-tête logistique de se rendre en Afrique du Sud pour y jouer un seul match, digérer les heures de voyage, digérer également le changement de saison. D'un seul coup, tu passes de l'hiver à l'été et il va falloir que tu t'envoies sur le terrain. Et en plus, voilà que les provinces sud-africaines se sont mis cette saison à faire comme les clubs de top 14, à savoir faire des impasses sur les matchs à l'extérieur. C'est simple, depuis le début de la saison, aucune des 3 provinces sud-africaines n'est parvenue à s'imposer sur le sol européen. Bien au contraire, à chaque déplacement, elles sont reparties en excédent de bagages, des valises très lourdes prises entre les poteaux de leur équipe. Les Sharks de Durban ont encaissé 56 points à Leicester. Les Stormers du Cap en prenaient 53 à Harlequins. Alors, vous me direz, ça peut se concevoir de prendre de telles roustes après un tel voyage. Oui, mais ces contraintes n'expliquent pas tout. Ce qui explique vraiment ces lourdes défaites, c'est le fait que les provinces sud-africaines ont décidé de ne plus jouer le jeu en envoyant en Europe des équipes bis composées de jeunes joueurs. Pourquoi faire un tel choix? Eh bien, parce que les équipes sud-africaines, tout aussi costaudes qu'elles soient, ont réalisé que de tels matchs et de tels déplacements n'étaient pas bons pour la santé de leurs joueurs, et notamment de leurs internationaux. Et par voie de conséquence, eh bien, elles ont décidé, pour ne pas désavantager les Springboks, eh bien, de n'envoyer en Europe que des joueurs mineurs. Les provinces ont basculé, si les provinces sud-africaines ont basculé dans le calendrier européen avec cette Champions Cup, il faut savoir que leur équipe nationale, elle, n'est pas dans le calendrier européen, elle est dans le calendrier du Sud, le Rugby Championship. Donc ça veut dire que si tu veux faire toute la saison et tous les matchs, t'es obligé de jouer quasiment un an sans t'arrêter. Et ça, évidemment, tous Sud-Africains qu'ils soient, ils ne peuvent pas le faire. Du coup, eh bien, moi je pense qu'il faudrait arrêter avec ces provinces sud-africaines, laissez-les jouer avec les gens du Sud et laissez-nous jouer entre Européens. Ce sera peut-être un peu plus équitable et surtout, ça nous évitera des déplacements et de la fatigue pour nos internationaux à nous.
Ok, arrêtons avec les provinces sud-africaines en Champions Cup, Denis.
Oui, mais le problème, c'est un problème de calendrier, c'est un problème de distance.
C'est rare en rugby d'ailleurs que ça se passe. Oui, le problème de calendrier.
C'est marrant, c'est pas non, des.
Je veux dire par là que l'idée était belle. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vais plutôt dans le sens de Christophe parce que ça n'amène pas grand-chose. Et puis, Et puis c'est pas l'équité n'est pas là quoi aussi. Voilà, on sait très bien. Alors tu l'as vu la semaine dernière, il y a eu ce seul match contre Toulouse et encore Toulouse a dominé sur ta rencontre, elle a gagné. Donc c'était où au
Chartres,
c'était
à Durban.
Cette formidable idée d'intégrer les provinces sud-africaines.
Mais c'est eux parce que eux ils avaient des problèmes financiers quand même.
Exactement.
Les Sud-Africains.
Donc ils viennent prendre des sous et jouent.
Ils ont besoin de remplir leur stade et qu'ils ont besoin d'oxygène économique.
Oui, mais sauf que
donc en fait ils se rendent compte que c'est pas gérable au final.
Ouais, oui, mais en fait, plus, c'est ça. Non, la première année, ils ont joué le jeu, mais ça.
C'est impossible à gérer.
La sélection nationale a dit, les gars, on récupère des mecs qui sont complètement.
Non, mais vraiment l'économie de cette Coupe d'Europe pour eux, parce que, finalement, ils remplissent pas les stades.
Et d'ailleurs, ils remplissent pas, ouais.
Ils remplissent pas les stades, donc je suis pas sûr que ce soit. À la fin une bonne opération, mais pour moi c'est dommage parce que je trouvais ça amenait un truc un peu exotique, mais bon, tant pis.
Ok, bah tant pis, pour l'instant c'est toujours en cours, hein.
Attention, il y a le champion du monde des clubs qui va arriver, donc je pense que ça va exploser.
Là aussi il y a un champion du monde des clubs.
Ouais,
toujours plus de choses, on en parlera, ne vous inquiétez pas dans les grandes gueules du sport.
Il y a un sujet qu'on pourrait rajouter à tout cela, c'est l'empreinte carbone.
Oui.
C'est vrai qu'il allait faire des courses de Tour Down Under en Australie en ce moment.
Oui.
Faut en parler, ça aussi.
Non, on peut en parler.
Ok, on en parlera un peu plus tard ou vous le ferez pendant la pub, les copains, s'il vous plaît.
L'Espagne.
On va jouer maintenant.
RMC, des vacances ou de l'argent?
Mais c'est vous qui choisissez, des vacances ou de l'argent. Lundi 20 janvier, dans deux jours, c'est le Blue Monday, le jour soi-disant le plus déprimant de l'année, pas sur RMC. Tout au long de cette journée, nous vous offrons du cash, de l'argent, oui, et des vacances. C'est vous donc qui choisissez à gagner jusqu'à 5000 euros ou un séjour clé en main, montagne, campagne, mer ou même sur la mer grâce à une croisière en famille ou entre amis. Vous vous inscrivez dès maintenant, c'est le top inscription, hein. Vous envoyez RMC au 732-16, RMC au 732-16. Bonne chance à tous, ça peut vous aussi vous arriver. Ce sera donc lundi 20 janvier dans deux jours. À partir de 11h, on ouvre le débat sur les présidents de clubs de Ligue 1. Est-ce qu'ils peuvent faire comme John Textor? Est-ce que la révolte est prête? On vous repassera évidemment les meilleurs extraits, c'est l'interview événement sur RMC. Et puis je vous rappelle la sensation cette nuit à l'Open d'Australie, la qualification de Gaël Monfils pour les huitièmes de finale de l'Australian Open. Allez, à tout de suite sur RMC, on retrouvera Eric Salio en direct de Melbourne.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Ah ouais.